Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Olivia.
Salut Bart.
Eh bien écoute, je crois qu'on a la palme de l'épisode le plus rafraîchissant dans le plus
là,
beau
on
contexte.
Est pas mal, ouais.
Pour dire un peu aux auditeurs, on est au bord de l'eau. On est où exactement?
On est à Gien, ouais. À côté de Hyères. Ouais. Et là, on est à la plage. On est plutôt bien, ouais.
Dans une petite crique. On s'est baladé un peu sur les sentiers, descendu une mini falaise, et on est tout seul. Magnifique cadre, franchement.
Ouais, sur
bravo.
Un petit spot secret, quoi.
trop bien, trop ouf. Bah, on enverra les gens pour aller regarder la vidéo. Comment ça va toi?
Ça va bien, ouais. Au top.
Mais écoute, moi aussi au top, hein. Franchement, on s'éclate bien depuis hier. Alors comme je te disais, il y a une tradition sur le podcast, c'est un peu de commencer par, par l'enfance, savoir un peu qui tu étais plus jeune. Et je crois que t'as pas mal de choses à dire sur ton enfance sportive. Et la question, c'est quel est ton premier souvenir de sport ?
Alors, mon premier souvenir de sport, c'est vrai que c'est une question qui est pas facile parce que j'ai commencé assez tôt. Avec mes parents qui sont sportifs et qui m'ont vraiment donné accès à beaucoup de sports différents. Mon premier souvenir, c'est je pense pour moi, c'est sur une planche, une ouais. vieille planche, tu vois, une planche à voile super longue et tout. On se mettait debout dessus, face à face en fait, okay. à deux, et on faisait en fait les cons, tu vois. C'était en fait à celui qui est tombé voilà dans l'eau et tout et en fait au final on était déjà sur des planches des futures planches de paddle alors que voilà c'était des planches de windsurf qu'on apprenait comme ça pour s'éclater quand on était gamin.
Trop cool. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'es arrivé les premières fois sur une planche?
Bah non, je vais avoir peut-être 8 ans, un truc comme ça, ouais, de okay. 8 ans jusqu'à quand t'es gosse, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire du windsurf et est-ce que c'est une culture familiale? Est-ce que c'est toi qui avais vu des images à la télé ou des gens dans ta famille? Enfin, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller?
J'ai la chance d'avoir une maman qui était fan de windsurf, qui a commencé dans les années 70. Et c'est clairement elle qui m'a amené, voilà, dès que j'ai eu l'âge pour faire du windsurf vers 10, 12 ans, elle m'a inscrite au cours de voile. Et j'ai kiffé. C'est vrai que c'est pas du tout facile comme sport au début parce que, t'attends le vent, la voile elle est super lourde, c'est un peu galère. Mais je pense que par la passion familiale aussi ça aide beaucoup et dès que j'ai eu les premières sensations de glisse de planning quand ouais. j'ai eu 14 ans ouais 13 14 ans tu vois quand t'as un peu cool. plus de force et tout que tu peux pousser plus loin, ça c'était vraiment un truc incroyable et je me suis dit que ce serait vraiment cool de passer beaucoup de temps à l'eau. Et voilà, c'est devenu un rêve plus tard hein.
De
faire carrière dans le windsurf.
J'imagine, pour ta maman qui a commencé dans les années 70, il ne devait pas y en avoir beaucoup des femmes qui pratiquaient à cette époque-là et tout.
Elles étaient... c'est vrai que c'est des sports qui demandent de l'argent d'abord parce qu'il faut acheter le matos. Donc il faut avoir accès à ça, qui sont assez ingrats parce que t'es en pleine mer et du coup t'en prends un peu plein la gueule parfois, c'est pas toujours, mais c'est vrai que parfois il faut accepter de se faire un peu remuer par les vagues, le vent et tout.
Puis il y a pas mal de logistique aussi.
Ouais, la logistique et l'environnement, c'est vrai que c'était assez masculin, mais ma mère elle s'en fout, elle avait ses potes et tout, elle a fait ses compètes jusqu'à ce qu'elle étudie. Jusqu'à ses 20 ans, ouais. Après, elle okay. a dû arrêter.
Ok. Ah, trop belle.
Elle a fait le choix d'arrêter, mais voilà, c'est toujours une vraie passion parce qu'elle continue encore, là. Elle a 61 ans. Et elle est toujours sur l'eau, donc on partage des sessions ensemble, c'est cool.
Trop, trop cool. Mm. Je vois ça, tu vois, comme un sport ultra physique, tu vois, et toi, tu confirmes que, ouais, après passer 60 ans, tu peux encore largement pratiquer et te faire plaisir, quoi.
Le windsurf, ouais, c'est un sport assez physique parce que la voile, une fois qu'elle est dans l'eau, tu vois, faut que tu mettes tout ton poids en arrière pour la soulever. Et aujourd'hui, ma mère, en fait, elle compense beaucoup par la technique qu'elle a acquis quand elle était plus jeune. Donc, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, en sport d'eau, on a le wing foil qui est quand même beaucoup plus, beaucoup moins physique parce que la voile, elle est vraiment légère.
Ouais.
Et surtout, c'est encore plus fun que le windsurf. Enfin, c'est vraiment différent parce que t'es sur le foil.
Ouais, ouais.
Sur, du coup, la fameuse planche qui vole. Et, moi, je suis en wing foil et elle en windsurf et on kiffe.
tu vas raconter, mais c'est vrai que j'ai plein de questions sur ça, sur les différences un peu entre les deux disciplines et toi tes différences de ressenti, d'émotion et tout. Mais ta maman, elle t'a poussé un peu vers les compètes, vers le milieu, on va dire un peu plus athlète de haut niveau, parce que ça peut rester, tu vois, comme un sport très enfin, je trouve que tu vois, il y a beaucoup de sports de glisse qui sont des sports à sensation où tu peux en fait vraiment te régaler et aller très 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 loin dans la discipline sans jamais rentrer dans une filière de performance et tout. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu dirigé, tu vois, vers les filières de compétition et tout petit à petit, quoi. Toi, t'as bien gardé les deux, tu vois.
Je pense que la compétition, c'est venu assez naturellement parce que pour moi, la compète, ça a toujours été un moyen de se retrouver, de rencontrer les gens, de progresser grâce à la compète. Mais j'ai jamais eu, je pense, cette hargne, tu vois, d'absolument vouloir écraser l'autre ou quoi. Même si, bah voilà, parfois tu donnes tout et t'as pas forcément la perf que tu veux. Mais parce que tu te mets des objectifs. Toute jeune, en fait, je pense que c'est une chance d'avoir des parents qui t'accompagnent, qui sont là, qui t'aident, qui t'emmènent en voiture, voilà, qui font des kilomètres pour toi, qui te regardent sur la plage et qui à la fois veulent une chose, c'est que tu sois heureuse.
Ouais.
Et que voilà, qu'en fait le but c'est que tu passes une bonne journée, tu t'éclates sur l'eau, tu te sens intégré dans une communauté qui te pousse.
Ouais.
Et j'ai pas de souvenir d'avoir eu des parents voilà qui étaient dégoûtés d'un résultat que j'aurais fait et que je me serais entraînée, parce que déjà c'est pas trop dans l'esprit du windsurf, je pense. C'est tellement aléatoire avec les conditions météo, tu vois, le vent il tourne, il tombe, faut changer le matos, etc. Donc c'est, il y a ce côté d'imprévisible qui fait que ce que tu, enfin ta perf, elle est un peu magique, tu vois. C'est voilà, quand tout va bien, et parfois tout va mal, quoi. Hein, c'est tu vas pas trop décider. Et ouais, j'ai vraiment ce souvenir d'avoir été portée par, en fait, d'avoir eu une confiance en moi renforcée grâce à ma mère, quoi. Parce que quand j'avais des petits coups de down, elle me disait toujours, mais ça va, c'est cool et tout. T'as tout donné et c'est ce qu'il faut.
Ouais, c'est trop bien d'avoir des parents qui sont dans cet état d'esprit là, tu vois, et qui t'encouragent juste à donner le meilleur de toi et à prendre du plaisir. Quand on est enfant, on peut vite se mettre beaucoup la pression, tu vois, et avoir envie de toujours être le meilleur, à la fois pour rendre fier ses parents, tu vois, c'est une partie du jeu, mais aussi parce que on a du mal un peu à se détacher, à prendre du recul, tu vois, sur le résultat. Donc c'est trop chouette. Et donc t'as commencé par le windsurf. Parce qu'il faut que tu me dises dans quel ordre t'as découvert chacun des sports, parce qu'aujourd'hui tu fais tout. Quand je regarde ton compte Insta, je me dis, mais en fait Olivia, elle se régale, elle teste à tout. Dès qu'il y a un nouveau sport de glisse, elle est là, tu vois. Donc tu commences par le windsurf. Tu fais tes premières compètes. À quel moment tu commences à découvrir un peu d'autres sports? Ça vient assez rapidement, d'autres sports de glisse.
Je commence par le windsurf dans les années 2000, quand j'avais 11-12 ans.
Ouais.
Et jusqu'à 2010, jusqu'à 18-19 ans. En fait, à 18 ans, je prends une année sabbatique. Je pars à Tarifa avec la voiture de ma famille, un Renault Espace, tu vois. Je charge toutes les planches. Mes parents me disent, bah, de toute façon, si on te donne pas la possibilité, tu trouveras un moyen d'y aller. Donc, vas-y.
Et Tarifa, du coup,
et
c'est...
Tarifa, c'est en Espagne, c'est au sud de l'Espagne, c'est en face du Maroc.
Ouais, ok.
Et c'est un spot de dingue, en fait, où tous les Européens s'entraînent là-bas. C'est vraiment la mecque des sports avant. Et du coup, en fait, bah, j'avais vraiment ce rêve, voilà, d'aller au bout, tu vois, après toutes les petites compètes que j'avais fait, quand t'es ado, tu vois, j'avais eu quelques titres et tout. Enfin, j'étais sur le point, voilà, de décoller, disons. Ouais. Donc, je faisais du slalom en windsurf. Je naviguais aussi un peu dans les vagues, mais plus pour le fun.
Ok. Tu peux expliquer, ouais, peut-être rapidement le slalom en windsurf pour les gens qui connaissent un peu moins. C'est la discipline olympique, c'est ça?
Alors, pas du tout. C'est l'inverse.
Vas-y.
Avant, à l'époque, alors, la discipline olympique, en fait, pour les JO, ce qu'on demande, en fait, c'est de courir dans toutes les conditions.
Ouais.
Donc, c'était une grande planche avec une grande voile qui courait de très peu de vent jusqu'à beaucoup de vent.
Ouais.
Donc, c'était un support hyper exigeant.
Ouais.
Et surtout, c'était des parcours de voile classique où tu remontes au vent et tu redescends au vent. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est une course qui va durer une petite heure. Où ça peut être vachement physique, tu vois, avec beaucoup de cardio, beaucoup de lecture du vent aussi, comme en voile normal.
Ouais, ouais.
normal, c'est
sur
disons,
plusieurs, la compète
en voile
sur plusieurs
olympique.
Jours aussi. Ouais.
Et la compète, la régate, ouais, elle dure 4 à 5 jours.
Ok.
Et en slalom, ça durait aussi 4 à 5 jours parce que du coup, bah, tu peux avoir des journées sans vent, donc tu optimises le nombre, voilà, tu cours sur une semaine pour être sûr de courir. Parfois, ça arrive qu'il n'y ait pas de vent et tu cours pas.
Okay.
Ça, c'est t'es deg. Et en slalom, bah, le but, voilà, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, t'as 3 ou 4 virages à faire.
Okay.
Donc, en fait, c'est des allures où tu vas très vite, tu descends avec le vent.
Ouais.
Et c'est au taquet, quoi. Et t'as des sensations de dingue. c'était un truc de dingue. Moi, je kiffais grave. Ouais. Et voilà, ça, je l'ai fait pendant, quand j'étais ado, jusqu'à 18-19 ans.
Ouais.
Après, par un manque de sponsors, en fait, ça s'est fait naturellement le switch avec le paddle, parce que le paddle est arrivé en 2010-2011,
ouais,
en France. Avec les amis qui veulent aller rider avec toi, qui t'invitent un peu, voilà, à aller à l'eau, tout ça. Et en fait, il s'est rapidement créé des courses en paddle en 2011-2012. Et j'ai fait mes premières courses dans le sud. J'en ai fait une à Sifour, une à Lyon.
Ouais.
Une à Lyon Lyon, c'était trop bien. C'était genre, on partait de la fosse aux ours et on passait entre les piles de ponts et tout. Enfin, c'était un peu technique parce que il y avait du vent. Tu vois, c'était pas, enfin, souvent, tu penses que le paddle, c'est juste, c'est un peu lassant parce que tu fais que ramer. Tu vois, c'est de l'endurance pure. Et c'est des planches qui vont pas forcément très vite. Mais dès que tu captes que, dès qu'il y a un peu de vent, il y a du petit clapot qui se forme. On est sur des planches qui sont assez étroites, assez joueuses. Et en fait, je me suis éclatée. Je me suis éclatée, en plus j'ai gagné la course, donc quand tu gagnes, c'est toujours cool. Et j'ai eu accès en fait en paddle à plus d'aide de la part de l'industrie de nos sports, donc de la part des marques.
Ok.
Alors qu'en windsurf, on n'avait aucune aide. Nous les femmes en fait en windsurf, peut-être que c'était un sport qui était en baisse aussi.
Ouais.
Et du coup, quand t'as moins d'argent, tu réserves plus l'argent aux hommes qu'aux femmes. Après, ça, c'est des choix. Hein.
Ouais, mais on va en reparler parce que bon,
voilà,
ça guide
du coup,
un peu aussi une carrière. Mais...
Voilà, windsurf, slalom. Après,
aujourd'hui, c'est toujours comme ça. C'est toujours en déclin. Et tu sais s'il y a des athlètes féminines qui arrivent à en vivre uniquement en étant sur le circuit en slalom ou...
Je pense qu'elles sont pas nombreuses. Je pense que tu peux. J'imagine que tu peux. Pour être honnête, je sais pas quels sont les contrats, quels sont les salaires. Je pense que c'est une énorme passion et qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font ça par passion parce que c'est ta vie et que pour rien au monde tu arrêterais ça. Moi, je me suis diversifiée, j'ai trouvé mon bonheur ailleurs, mais je pense que pour les athlètes qui continuent, c'est vraiment comme ça quoi, c'est ta vie et point barre.
Ouais.
Et du coup,
tu fais souvent avec les sports de glisse, tu vois, de manière générale, tu vois. Ou tu vois, je rencontrais. Mathieu Crépel, tu vois, qui fait du snow, tu vois, et lui très vite il a voulu sortir, tu vois, des circuits halfpipe et tout ça, et plutôt aller vraiment gagner sa liberté et tout. Et il me disait, mais pour rien au monde, même si je trouvais pas de sponsor et tout, j'aurais arrêté en fait. Pour rien au monde, j'aurais abandonné parce que c'était ma vie, quoi. Donc,
ouais, c'est clair.
Tu le retrouves assez souvent, je trouve, dans les sports à sensation et de glisse, tu vois. Donc,
c'est clair, carrément. Et en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'industrie du paddle, donc les marques de paddle, c'était beaucoup plus ouvert, tu vois, parce que, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais les femmes étaient beaucoup plus soutenues.
Ouais.
Alors qu'en windsurf, peut-être parce que c'est un sport où il faut être assez grand, il faut être assez lourd, tu vois, enfin, c'est un peu plus. C'est une mentalité qui est plus tournée, voilà, vraiment vers les gars, vers la perf. Et c'est vrai que c'est des sports cousins, tu vois, donc tu peux t'imaginer pourquoi est-ce qu'il y a une si grande différence, pourquoi est-ce que tu peux pas faire carrière en windsurf alors qu'en paddle c'est possible, ou enfin en tout cas c'est plus facile. Et
est-ce que tu penses que c'est aussi parce que justement le paddle était en train d'arriver, que le paddle a eu un succès aussi commercial assez rapide, tu vois, parce que bah on peut les citer, mais tu vois, il y a eu des marques qu'on fait des matériels pour les amateurs qui voulaient débuter ou apprendre à des prix hyper intéressants. Donc tu vois, c'était la fameuse planche Decathlon qui se gonfle et qui marche bien. Et tu vois que moi j'ai retrouvé très vite sur les bateaux de mes potes parce que ça se plie, ça tient dans un sac, c'est trop bien. Ouais. Et que aussi c'était plus accessible, tu vois, c'est que du coup tout le monde avait envie d'essayer, les filles comme les garçons, et il n'y avait pas besoin d'être une machine de sport pour te dire ah, mais tiens, mais j'ai quand même envie au moins d'essayer d'être debout sur la planche, quoi. Tu penses que ouais, il y avait aussi ça, cette espèce d'entrain du début qui a peut-être un peu aidé.
Bah, c'est vrai que les planches gonflables c'est vraiment ce qui a pu démocratiser le paddle, clairement. Ouais. Parce que bah, pour des raisons de place, de capacité du matos. Ouais. Et aussi, bah, les planches gonflables, c'est des planches qui se cassent pas. Tu peux prendre un rocher, tu peux te percuter planche sur planche. C'est vrai, ouais, que la planche, bah, elle est super durable. Et il y a cette explosion, disons, du sport grâce à ça.
Ouais.
Et il y a aussi un autre paramètre aussi, je pense, en paddle. Moi, j'ai fait donc du coup de la course,
ouais,
en sup race, on appelle ça. Et le côté de l'endurance, tu vois, de l'effort. Quand tu fais un 18 bornes, ou tu vois, quand tu fais des traversées, quand tu fais le même parcours, et que c'est peut-être que tu as plus de reconnaissance de l'athlète quand quand il y a ce côté dur, okay, physique,
ouais,
que quand c'est simplement du ride, ou que c'est de la technique, de la glisse, que c'est bah ton matos qui va. Non, mais je veux dire, c'est ton matos, c'est ton expérience, c'est ta lecture du plan. Enfin, je sais pas, mais en tout cas voilà, moi ce qui m'est arrivé c'est ça, c'est j'ai fait du sup, j'ai eu un prize money à la première compète,
okay,
qui a rapidement été égal avec celui des hommes,
okay,
dès 2015, okay, grâce à des riders qui ont organisé eux-mêmes un tour qui s'appelle l'Eurotour, ouais, le tour en Europe. C'est pas le retour du Jedi, hein, c'est le retour voilà. Et
alors c'est des mecs qui faisaient du paddle.
Ouais, c'est mon meilleur pote, et okay, un de ses meilleurs potes.
Vas-y, bah, cite-là, il s'appelle comment ?
C'est Fred Bonnef et Bélard Diaz. Et on a commencé le sup ensemble en 2012, on a fait des trips, voilà, on partait s'entraîner ensemble et tout. Et Bélard, gros entrepreneur, gros businessman, qui avait un bon réseau et tout, mais qui avait surtout cette volonté d'innover et de vraiment apporter un label.
Ouais.
Au sport comme en triathlon par exemple, tu vois, t'as, okay, Ironman, voilà, ben ça c'est, voilà, c'est le même concept. Et du coup ben c'est devenu le tour de stand-up paddle le plus gros au monde, le okay, le plus reconnu, où tous les athlètes venaient tous les ans, tous les étés. Il y avait 8 courses hyper importantes qui s'enchaînaient quasiment tous les week-ends.
Okay.
Après, moi, j'ai jamais fait 8 d'affilée, parce que 8 week-ends d'affilée, tu meurs. Mais ça m'est arrivé d'en faire 4-5 d'affilée.
Ok.
Week-end après
eux,
week-end.
En termes d'organisation d'événements.
Ils sont chauds, ouais.
Tu termines un event le dimanche, le lundi, tu replies. Le mardi, t'as tout qui part en avion, tu vois, ou qui part en déplacement.
Bah, faut être
pour
endurant,
tout remonter,
ouais.
Ouais. En fait, tout soit après le vendredi, tu vois.
Après,
c'est waouh.
Leur taf c'était d'arriver sur un événement existant, ouais, et de vérifier que tout se passe bien, d'aider, tu vois, sur les briefings, sur les remises des prix, sur le déroulement de la course. Mais en soi, l'organisation était déjà prête quand ils arrivaient. Donc ça, c'est vrai que sinon, c'est impossible, tu vois, de faire 4 week-ends d'affilée, de tout monter, tout défaire. Enfin,
c'était déjà des compètes de paddle, en fait, mais qui étaient un peu indépendantes, c'est ça ?
C'est ça, ouais. C'était, okay, en fait les plus grosses compètes. C'est d'ailleurs toujours. Hein. Ouais. Enfin, moi, je dis avant parce que j'en fais plus. Enfin, pour le moment, je fais une pause,
ouais.
Une pause foil. Et du coup, c'est vrai que ça a apporté une ligne directrice, tu vois, de se dire... bah, sur une course, voilà, c'est hyper important d'avoir un bon parcours, tu vois, qui ait du sens. Parce que nous, en fait, en paddle, par exemple, t'es en pleine mer, il y a du vent. Il suffit que t'aies une partie avec du vent de côté. Et c'est genre la galère, mais grave. Genre, c'est l'enfer.
Ouais.
Et parfois, ça peut arriver bah, qu'il y ait des organisateurs qui soient hyper motivés, qui veulent organiser des events et tout, mais qui connaissent pas forcément bah, tous les paramètres qu'il y a sur l'eau. Les paramètres spécifiques du sport lui-même.
Ouais.
Et qui te propose des parcours un peu farfelus, tu vois. Et ben sur ce tour-là, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est que les parcours sont toujours top. L'ambiance sur l'event est top, le traitement des athlètes, les prize money égaux hommes-femmes, etc. Donc, okay. Ça, c'est vrai que ça a vachement influencé tout le sport lui-même.
Ouais.
Parce que y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de ça sans forcément être labellisés, Eurotour. Et du coup, c'est cool d'avoir vécu ça. Ouais,
ouais, trop bien. Est-ce que, tu vois, justement, pour les auditeurs qui sont un peu curieux, moi, j'incite toujours, tu vois, les auditeurs à aller sur les événements sportifs parce que tu découvres vraiment un sport de l'intérieur et sur les sports, si tu veux, qui sont pas les gros sports médiatiques, tu peux aller parler aux athlètes, tu peux aller parler facilement aux organisateurs, et tu te régales, quoi, et tu parles de, enfin, t'es vraiment d'être humain à être humain, donc c'est vraiment cool. Est-ce que tu te souviens, où est-ce qu'on peut aller le voir en France, à quelle date un peu c'est, tu vois, est-ce que, où est-ce qu'on pourrait envoyer les, s'il y avait un événement ou assez accessible qu'on pourrait recommander aux auditeurs pour aller voir un peu, tu vois, à quoi ça ressemble et tout.
Ben là, il y a le Pornichet Paddle Trophy, je crois.
Ok, donc à Pornichet.
À Pornichet, ouais, qui est à la fin du mois, il me semble.
Okay.
J'ai pas le calendrier
fin
en tête,
juin.
Désolé.
Ok, donc fin juin, non, mais t'inquiète, ok, fin
si
juin.
C'est pas le week-end prochain, c'est le week-end d'après, fin juin. Du coup, le temps que tu réalises le podcast, ce sera déjà passé, j'imagine.
Peut-être.
Mais en tout cas, il y a une grosse course sur Pornichet. Je crois que ça va être la seule en France, il me semble. Sinon, je suis vraiment désolée de pas savoir. Mais après, il y a eu des grosses courses sur Sainte-Maxime aussi, en Vendée à Saint-Jean-de-Mont.
Ok.
Et ça va être les plus gros spots en France.
Trop cool.
Et enfin pour les courses en tout cas.
Ouais.
Et c'est vrai que quand tu arrives sur un événement, nous c'est super cool. Tout le monde est sur la plage, tout le monde fait sa life, il y a pas d'entraîneur.
Ouais.
Donc les athlètes sont libres et libres au sens que tu t'organises comme tu veux, tu peux, si tu veux aller parler à quelqu'un tu vas parler à quelqu'un, c'est vraiment c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus on va dire libre, parce que c'est des sports qui sont nouveaux et c'est des sports qui sont un peu entre la ride et l'endurance, tu vois.
Ouais.
Donc à la fois tu fais un parcours où tu vas te mettre bien parce que c'est un 18 bornes et que c'est tu sors de là, t'es calmé.
18 km.
Ah, j'en sais rien.
T'as jamais mis une montre et tout pour essayer de compter.
Non,
ou...
aucune idée.
Mais tu fais quelle distance sur un coup de rame, tu sais pas trop.
Je sais pas, après si t'as la planche lancée, tu dois faire 4 mètres. Un truc comme ça. Enfin après ça dépend si t'as le vent de face, le vent dans le dos.
Ouais,
sur une vague, tu mets un coup de rame et tu peux faire 200 mètres, tu vois, si tu te fais pousser par la vague.
Ouais. OK.
Mais non, 200 mètres quand même pas, je suis un peu marseillaise là.
Donc t'es marseillaise tout court.
Ouais, voilà. Parfois plus que d'autres.
Non, mais oui, effectivement, ça dépend de beaucoup de choses, mais ce serait une stat intéressante. Tiens, si un jour tu mets une montre et tout, je serais curieux de.
Et il y a aussi ce qui compte beaucoup sur les courses, c'est que tu peux drafter, c'est-à-dire que tu peux te mettre comme en vélo, tu peux te mettre derrière, derrière les autres. Ouais.
Donc ça tu prends aux auditeurs qui font beaucoup de vélo.
Tu prends en fait le sillage du rider devant et ça te fait économiser 30 à 40% de l'effort. Donc tu te reposes un peu derrière, tu tournes, tu prends des relais et ça c'est trop bon quoi.
Okay.
Parce que tu partages encore plus.
Ouais, donc c'était exactement la même mécanique qu'en vélo quoi, avec sur les forces de frottement.
Ouais.
Trop cool. Et du coup ça vaut le coup de. Il y a vraiment ça durant les courses, vous suivez les unes les autres, les uns les autres, et après il y a des passages de relais.
Ouais.
Vous devez vous coordonner, être un peu stratège à ce niveau-là.
Ouais, carrément. Parce que du coup quand tu rames en paddle, la planche elle fait des zigzags. Après nous on a des planches qui font 14 pieds, ça fait 4,20 m de long, donc c'est une planche qui est assez qui va quand même assez droit, mais quand même tu vois tu fais un petit peu des zigzags parce que tu rames quelques coups à droite, quelques coups à gauche. Et du coup tu dois anticiper la trajectoire de l'athlète devant toi.
Ouais.
Quand t'es une petite dizaine, ça peut arriver qu'il y ait des vagues un petit peu qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment un vrai travail de proprio, de concentration et pour tout ce qui est endurance et tout aussi quoi.
Ouais. Non, c'est super comme ça.
Et bah ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé, ouais.
Tu m'étonnes. Et du coup, ça te plaît, tu gagnes des choses. C'est vachement novateur le fait que les prize money soient équivalents. Je crois que c'est le premier, non, sur des sports de glisse. Il y en a vraiment pas beaucoup des. Mm-hmm. À l'époque, bon, maintenant ça se voit de plus en plus. T'es hyper précurseur. T'as gagné pas mal de compètes en plus. Qu'est-ce qui fait que que tu passes du coup encore un nouveau sport, dis donc. Elle a la bougeotte et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi l'histoire.
Bah déjà quand je m'entraînais en sup race, j'aimais m'entraîner de façon vachement variée.
Ok.
Parce que faire un entraînement toujours le même. Enfin par exemple tu vois bah là je m'entraîne à Gien aujourd'hui, demain je m'entraîne à l'autre côté de la presqu'île et après-demain je m'entraîne à Toulon. Et tu vois enfin j'aimais en fait. Je pense que ma force c'était vraiment de savoir rider dans toutes les conditions. Okay. Et la force de tout athlète, enfin de tout rider, c'est pas d'être le meilleur de ton spot, c'est de bouger, de savoir t'adapter à tout. Et du coup, je pense que j'ai ça en moi, tu vois, de casser la routine, tu vois, et de chercher, de sentir des choses, tu vois, sur l'eau et de valider ce qui marche. Et même en fait, parfois tu peux croiser les sports. C'est-à-dire, j'ai fait donc pour te dire, hein, donc avant en paddle race, je faisais de la pirogue.
Ouais, ok.
Avec les Tahitiens sur Toulon, c'était trop bien.
Ouais, je parle avec Thomas Button d'ailleurs.
Ah ouais, ouais, ouais.
Parce que il m'a dit que vous connaissiez un
bon
peu.
Mon pote à moi, ouais. Ok. Ouais. Donc la pirogue, tu vois, tu rames avec les Tahitiens. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont vraiment appris à avoir un geste hyper fluide, hyper ample. Ouais. Ils appellent ça le palpédo, tu vois. Ils disent non, plus loin. Une fois, je suis allée sur Tahiti, il y a un gars, c'est un monstre, tu vois, de là-bas. J'ai oublié son nom, mais bref, c'est un des meilleurs rameurs tahitiens. J'avais déjà des titres en paddle assez sympas. J'avais fait plusieurs fois vice-championne du monde. Et il m'a dit, si tu veux savoir ramer, il faut que tu passes du temps ici. Tu vois, et le gars, il dit ça, tu dis, bon, d'accord. En fait, c'est vraiment jamais, bien sûr que c'est jamais fini. Mais de faire de la pirogue, de faire du prone paddle, de faire du surf, de faire tous ces sports d'eau, c'est vrai que ça m'a vachement aidé dans mon entraînement. Et dès que le foil est arrivé, enfin dès que le foil s'est démocratisé en 2018, j'ai découvert ça à Cabreton.
Ouais.
Avec un pote qui était shaper de planche.
Okay.
Et avec qui est d'ailleurs mon shaper de planche de foil depuis, hein, voilà, c'est ouais. on est fidèles.
Donc un shaper, pour les gens qui connaissent pas, c'est la personne qui va te préparer ta planche.
Un shaper, c'est celui qui fabrique la planche, qui peut la designer aussi. Enfin, ouais. D'habitude, ouais, les shapers, disons purs, les shapers locaux, ils design et ils fabriquent.
Ouais.
Et donc il y a un vrai travail de comment dire, quand enfin tu développes la planche, tu l'imagines, tu la testes,
de conception de produit,
de produit,
et d'ingénierie, quoi. Il y a d'ingénierie pour calculer de la glisse, ouais. Pour essayer de voir de calculer peut-être les forces ou d'imaginer.
Et bon, après c'est hyper empirique, hein, quand même.
Ouais.
Parce que t'as des sensations sur l'eau qui sont pas forcément, enfin, parfois c'est quand tu fais des erreurs que tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui marchent. Ouais. Tu vois, du coup, ça c'est aussi hyper passionnant. Et du coup, voilà, une fois que le foil est arrivé, j'en ai fait en surf au début, dans les Landes. Je me suis fait éclater. J'ai prenais des mousses, les potes, ils me disaient, ouais, vas-y, c'est bon et tout. Putain, j'étais avec le truc, je faisais des tortues et tout sur le ventre. En fait, donc le foil, pour expliquer, c'est comme un avion sous l'eau,
ouais.
Qui est connecté avec un mât, à la planche. Et ça va faire voler la planche. Et quand t'arrives pas à te lever sur la planche, enfin sur le surf, t'es sur le ventre en mode t'es en PLS complet, quoi. Donc j'ai appris complètement à l'arrache là-bas. C'est venu petit à petit et ensuite le foil on l'a mis aussi sur des paddles.
Ok.
Sur des paddles qui sont hyper compacts, qui sont du coup des tout petits paddles faits pour le foil. Et là, ça m'a complètement fait vriller, quoi. Ça, je disais donc j'avais à l'époque un pote qui faisait mes programmes et tout, mes séances, tu vois, d'entraînement et tout. Et c'était dur, quoi, parce que je voulais faire que du foil. Il fallait quand même que je continue à ramer en race classique avec une planche, voilà, qui est beaucoup moins marrante et qui un entraînement qui est beaucoup plus dur mentalement, disons.
Ouais.
Et
Tu passes d'un sport où il y a quand même la grosse dominante. Alors il y a beaucoup de sensations de glisse, mais c'est quand même la grosse dominante. C'est quand même une dominante lactique en plus, enfin, ou
ouais, anaérobique. Lactique, tout.
Donc vous faites beaucoup de cardio, beaucoup de muscu aussi, parce que ramer sur 18 bornes, quand même, il faut tenir, quoi, j'imagine. Un sport où là la dominante, c'est vraiment la sensation et le kiff absolu, j'imagine.
Bah en fait, t'es tellement absorbé par ce que tu vis que tu te rends pas compte de l'effort que tu fais, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'avais donc tout ce qui est cardio et tout la montre, tu vois, pour gérer mes séances et tout. Et en cardio, j'étais plus haute à ma séance de récup l'après-midi en foil, en mode paddle dans les vagues, voilà, ouais, tranquille. Parce qu'en fait, quand tu voles en foil, en vague, tu prends ta vague, tu finis ta vague, tu tournes et tu pompes ensuite, ouais, avec les jambes. Tu vois, donc tu rames aussi quand t'es en paddle. Et du coup, tu vas revenir au départ, au pic, en pompant. Et ça te fracasse. Genre, c'est genre, je pense que c'est un des trucs les plus physiques que j'ai jamais fait avec le skating, comme on en parlait ce matin. C'est un des trucs les plus durs. Et du coup, j'étais, même en étant hyper calme et tout, en me disant, voilà, c'est la séance récup, tranquille et tout, je montais plus haut en cardio qu'à ma séance du matin, paddle race, en mode sprint,
ah ouais,
15 secondes,
okay,
et tout. Vraiment, j'étais censée me mettre mal, tu vois. Et de toute façon, il y a un truc qui résume tout un petit peu dans ma pratique. C'est que c'est le plaisir qui est le moteur de la performance.
Ouais.
Et une fois que tu t'éclates sur l'eau, c'est vrai que tu peux tout faire, en fait. Tu peux vraiment pousser ton corps loin et et c'est vraiment ça, en fait, qui te drive, hein.
Ouais. Mais c'est, tu vois, c'était en préparant l'interview, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, ouais, que tu te laissais driver par le plaisir. Et moi, ce que j'ai beaucoup admiré chez toi, et c'est un truc, tu vois, j'en parle parce que j'encourage les gens à avoir un peu le méta d'esprit, c'est, t'as jamais eu peur de redémarrer une nouvelle discipline, tu vois. Alors on peut se dire, ouais, c'est toujours sur l'eau, il y a toujours une planche et tout, mais c'est hyper différent, tu vois, quand tu fais du windsurf, du paddle et du foil, tu vois, pour avoir testé les trois, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Alors certes, il y a un élément qui est commun, tu vois, mais tu repars quand même vraiment de zéro à chaque fois. Et moi, ouais, ce que j'aime beaucoup et ce que j'apprécie, ce qui m'impressionne, tu vois, c'est que t'as redémarré à chaque fois et à chaque fois t'as re-réussi, tu vois, à re-performer, à re-y arriver. Et du coup, j'ai une des questions qui me vient, c'est quand tu découvres un nouveau sport, tu vois, donc tu te dis, ok, c'est le plaisir qui va te driver et tout, mais est-ce que t'as une méthode pour, je sais pas, apprendre plus vite, progresser encore plus vite, tu vois, essayer d'avoir des sensations un peu plus vite, parce que tu peux te décourager aussi, tu vois. Moi, ma première semaine de foil, mes deux premières journées, trois premières journées, c'est pas glorieux, tu fais pas grand chose, et tu vois, tu t'aurais pu te décourager, tu vois, et toi non, tu vas jusqu'au bout, tu continues. Donc je sais pas, est-ce que t'as une méthode, des tips, des quelque chose que tu te dis, tu vois, quand tu commences une nouvelle discipline?
Quand tu commences, au tout début, il faut être entouré des bonnes personnes. Par exemple, mes potes, au tout début, en foil, ils étaient sympas, hein, mais bon, ils m'envoyaient au carton, quoi. Tu vois, faut pas se chier, on va dire. Et d'être entouré des bonnes personnes qui te donnent confiance, tu vois, qui te disent, là, c'est bon, tu peux y aller, t'es bien, tu vois. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de retours, même des retours vidéo. Ouais. Tu vois, et si t'arrives à avoir ça, que ce soit des potes, un entraîneur, voilà, vraiment des gens qui sont dans cette démarche là de partage, tu vois. Ouais. C'est énorme. Et ensuite, il y a une deuxième chose. Je pense que faut être hyper passionné par par la mer.
Ouais.
Moi, ce que j'aime aussi parfois, c'est d'être seul. C'est d'être seul et d'être connecté et de faire mon kiff. Et d'ailleurs, j'ai des potes qui hallucinent. Ils me disent, mais là, tu vas rider toute seule et tout. Tu fais ta session en scred comme ça. Ouais. Et en fait, je kiffe, tu vois.
Ouais.
Je suis avec la mer. C'est en fait la mer et moi.
Ouais.
Et c'est comme, voilà, c'est mon moment, tu vois. Et j'arrive à me pousser dans mes limites grâce à cette passion.
Ouais.
Là, de lecture, de toujours aller un petit peu plus loin que ce que j'ai fait avant, tu vois. Et après, bah, il y a la troisième chose, c'est les compètes, les événements où tu vas rencontrer des gens, tu vas t'inspirer des autres. En sup, c'était le cas avant, enfin, tout ce qui était, voilà, réglage de, enfin, dans toute la mise au point des planches, l'entraînement, la technique de rame en sup, c'est énorme. C'est-à-dire, il y a les Tahitiens qui sont arrivés, les mecs de Nouvelle-Calédonie, ils ont révolutionné le sport.
Ouais.
Parce que ils sont arrivés avec une rame beaucoup plus fine, beaucoup plus ample, et un toucher d'eau qui était incroyable,
ouais.
Et qui venait des pays qui sont tout dans l'intuition. Il y a pas quelqu'un qui va te dire l'angle, le truc. Tu peux comparer en fait les, enfin sans,
vas-y.
Sans être taquine, tu peux comparer le kayakiste qui est plus cadré, tu vois, cartésien, etc. Tu vois, qui va vraiment avoir une démarche scientifique, disons,
ouais.
De l'entrée de la rame, enfin de la pagaie, du coup. Nous, on dit rame.
Très européenne,
nous, on dit
choses,
rame. Faut ouais. Pas dire rame. Normalement, la rame, c'est connecté à ton bateau. Nous, on dit rame parce que les Tahitiens, ils disent rame. Donc, on le dit rame. Mais le kayakiste, il dit pagaie.
Ah, bien
tu vois,
ouais, ouais.
Parce que c'est normal. C'est le terme qu'on devrait utiliser. Mais donc, t'as cet aspect-là. Et après, t'as le Tahitien qui va avoir aucune pédagogie. Qui va être tout dans le feeling. Il prend, par exemple, il prend une guitare, il écoute, il joue du youk, tu vois, c'est en mode, et tu dis, mais vas-y, montre-moi. Il prend comme ça, il te dit, mais c'est ça, regarde. Et tu dis, mais non, mais arrête. Et après, sur l'eau, c'est pareil, c'est tout du feeling, tout de, ben, vraiment, tu vas venir regarder ce qui fonctionne, et ça va être des heures, et imiter l'autre. Enfin, imiter ce qui marche. Et ouais. Moi, j'ai imité, ben, Tito Ampuyo, qui est un des meilleurs rameurs au monde. Qui est de Nouvelle-Calédonie et qui est une des légendes françaises du paddle. Hyper humble, hyper chill, tu vois. Le mec, il se la raconte pas du tout. Bah, tu le connais pas, évidemment. C'est normal parce qu'il est, voilà, vraiment dans son truc. Et voilà, moi, j'ai toujours essayé de ramer comme lui, même s'il m'a pas donné, je pense qu'il m'a pas donné un conseil. Peut-être qu'il l'a fait peut-être une fois, mais c'était tout dans le geste et dans le juste ramer ensemble comme ça.
Ouais. Bah, t'as peut-être, tu vois, cette capacité à, sans qu'on t'explique quelque chose, tu vois, à voir quelqu'un faire et à
ouais,
tout de suite être
bah
capable
ouais.
De l'assimiler et de le refaire, quoi. Et tu vois, c'est vrai que c'est dur. Tu vois, j'ai beaucoup de copains, peut-être qui sont un peu plus, matheux, école d'ingé. Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingé, j'ai un parcours un peu plus, on va dire, scientifique. Et quand ils écoutent le podcast, des fois, ils ont du mal à ressentir, tu vois, ce truc où, les athlètes, encore plus dans le sport de haut niveau, je pense, cette capacité, tu vois, à voir quelqu'un faire et à tout de suite avoir envie d'essayer de reproduire et d'être capable, tu vois, de le faire un peu soi-même. Et là où eux, ils vont avoir besoin de, tu vois, de lire une formule ou de leur expliquer une méthode, tu vois, à l'oral et ils ont pas ça, tu vois. Et c'est marrant, tu vois, de voir ces méthodes un peu différentes de fonctionnement et c'est vrai que du coup, dans beaucoup de sports, t'as vraiment cette dimension de partage où on sait que, en fait, ouais, je te dis un truc, je te montre un truc et en fait, à toi de te l'approprier et on verra comment tu fais, quoi. Et c'est très beau, en tout cas, mais
Bah, surtout, il y a des choses où quand tu vois l'autre faire, là, je prends l'exemple, donc, du nouveau sport qu'on fait, le paddle donc, le paddle foil. Attention, là, ça part en live. Le paddle foil en downwind. Donc le downwind, c'est quand tu descends avec le vent, donc le vent te pousse,
ouais.
Le vent est fort, donc il y a de la houle, et tu viens surfer la houle, poussé par le vent. Et ça, c'est moi, pour moi, le truc le plus dingue. Enfin, c'est ce que j'adore le plus.
Je mettrai des vidéos dans la description de l'épisode et je ferai du contenu sur Insta où je montre ça parce que c'est vraiment, moi, ça m'a bluffé, en fait.
Quand je l'ai vu,
en plus, tu vois, alors, ça existait déjà peut-être depuis un petit moment. Moi, j'ai découvert par ton compte, par toi, ce que tu faisais. Et quand je te vois rider sur 30 bornes, en fait, tu surfes une vague de 30 km, en gros, enfin.
C'est ça, c'est une vague infinie.
Ouais, c'est une vague infinie.
C'est des houles qui s'enchaînent. Ouais. Mais en fait, le spot, il fait, là, demain, mon spot, il fait 70 km de long. On serait Marseille et ici.
Incroyable.
Donc, si tu veux, c'est le kiff infini.
C'est la liberté absolue, quoi.
Ça, c'est tout nouveau. Ouais. Ça, on essaye d'avoir les feuilles les plus petits possibles. Où tu vas devoir décoller à la rame, donc c'est quand même assez intense pour le décollage. Et après, en termes de lecture, tu vas avoir plein d'opportunités, tu vois, sur le plan d'eau. Et des fois, t'as des parties un peu creuses, où la houle, elle est un peu grosse, tu te dis, mais là, jamais ça passe, tu vois. Et là, tu vois quelqu'un passer à côté qui va, comme en ski, tu vois.
Ouais.
Comme en ski freeride ou quoi, où tu te dis, là, c'est mort et tout, ça passera jamais et tout. Et finalement, avec un, voilà. Je pense qu'en ski, c'est plus la vitesse, l'engagement. Nous, ça va être le placement de la planche, du foil, les appuis qui sont hyper, hyper durs sur les jambes parce que le foil, il veut sortir de l'eau et tu mets tout à l'avant et tu essayes de tenir sans toucher l'eau, du coup, avec ta planche. C'est voilà, plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et de voir, pour le coup, là, de voir pour les, enfin, de voir les gars faire. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, quoi.
Ok, ouais. Ouais, et puis c'est un peu ce que la beauté, tu vois, quand il y a un nouveau sport, c'est que tu vois, il n'y a pas encore vraiment de prof, de coach, tu vois, tout le monde expérimente, tout le monde essaye de créer des nouvelles techniques, tu vois, ça vient, l'inspiration, elle vient un peu de partout, vous regardez les uns les autres, vous vous inspirez, je trouve, tu vois, et c'est trop beau, quoi, enfin, tu vois, à voir de l'extérieur, je trouve qu'il y a cette émulsion de, tiens, il y a tout à faire, il y a tout à découvrir, c'est vraiment trop cool, et c'est pour ça que je te recommandais le film, The Lord of Dogtown, tu vois, parce que c'est ces mecs qui découvrent le skate et tu vois qui commencent à rider dans des piscines vides. Et tu vois, il y a quand même un mec. Alors tu vois, j'aime bien dire qu'il est crétin avec toute l'admiration que je lui dois, qui était crétin pour se dire, mais tiens, mais ça vous dit les gars, il y a des piscines vides, on va aller faire du skate dedans. Et je pense que ça peut être cool, tu vois. Et en fait, t'as une place à la créativité qui est dingue, quoi. Et je pense que toi là, tu fais partie de ces gens-là qui est en train de vous créez le sport et vous êtes en train de l'inventer, quoi, tel que
C'est vrai qu'il y a c'est vraiment dingue de vivre ça parce que t'essayes d'avoir une vision,
ouais.
Tu vois, de dire ça va décoller, tu vois, par exemple la wing au début, il y a 3 ans, il y avait beaucoup de monde qui disait ouais, mais ça c'est un truc de clampin, c'est nul, etc. Tu vois, et là maintenant tout le monde en fait, quoi,
ouais.
Parce que forcément t'es rattaché à ton sport de base, ça peut être le windsurf, le kite, n'importe quel sport, et cette capacité à voir le potentiel, et même en fait c'est des trucs t'hallucines, là maintenant c'est les backflips en wing, les fronts, des trucs t'as limite du mal à comprendre comment ils font, tu vois, parce que ça va dans tous les sens et tu sais même plus où est l'appui du vent dans l'aile, enfin c'est ça va trop vite,
ouais.
Et là, tout ce qui est aussi traversé, les records. Là, j'ai un ami en Australie, il a fait 200 km en paddle foil, downwind. C'est-à-dire qu'il est parti d'un peu au-dessus de Sydney.
Ouais.
Et il est arrivé 11h15 plus tard à Sydney. Avec ça, tu vois, avec une planche, un foil, une rame. Ouais. Et c'est parti,
pas
quoi.
Pas de voile, rien.
Pas de voile, rien, juste en surfant la houle. Et après, il y a tout le paramètre aussi, des vitesses qui vont de plus en plus vite.
Ouais.
Là, en wing, il y a des frangins là, qui ont atteint les 35 nœuds, donc les 65 km/h. Ça commence à aller vite.
Ouais, ouais.
Et ça, voilà, ça, c'est aussi, ça fait aussi partie du truc. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites.
Tu penses que ça va être le sport de glisse et de vent le plus rapide, tu vois, parce que typiquement on parlait de course au large un peu rapidement, le fait d'avoir mis des foils, tous les bateaux ont gagné vraiment en performance sur la vitesse, tu vois. Toi, tu sens un peu le même phénomène arriver, je connais pas les vitesses
après,
dans chacun, tu vois, dans le
surf, l'aérodynamisme en wing, si tu veux, là il y a aucune loi parce qu'on n'en sait rien.
Ouais.
Tout dépend en fait des matériaux qu'on utilise pour le matos. Là, on est avec des voiles de plus en plus rigides en wing, alors qu'à la base, c'est des petites ailes de kite gonflables.
Ouais.
Et peut-être, ouais, peut-être, on verra. Mais moi, je dis pas non, je dis pas oui. Ouais. C'est après, tout dépend du matos, du réglage, de l'engagement des riders et de pas avoir peur, quoi. Et d'être casqué, comme en skate de à descente, par exemple. Quand tu vois qu'un skate va plus vite qu'une moto sur du downhill, tu vois, sur des descentes, c'est un truc de fou, tu vois. Tu pourrais, enfin, parfois il y a des choses, je pense qu'il faut pas, voilà, faut juste pas avoir de limite et dire, vas-y, on y va, on essaye, quoi.
Ouais, exactement. Et limite, mieux vaut pas le savoir que tu vas plus vite qu'une moto ou que tu vas plus vite qu'un tel.
C'est vrai ça. Et parfois c'est quand tu le sais pas que tu le fais justement. Que t'as pas l'appréhension.
Ouais. Bah, tu connais ce fameux dicton, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tu vois,
ouais, carrément, c'est
personne
ça.
Leur a dit.
C'était ce que je cherchais, mais je l'avais pas, tu vois. Merci.
on se note. Trop cool. Et il y a quand même une question que je voulais te poser, peut-être un peu plus professionnelle et un peu aussi spirituelle vis-à-vis peut-être de ton entourage, tes sponsors. Comme tu l'as dit, tu vois, en paddle, tu étais vice-championne du monde. Tu gagnais tout. Le sport était aussi en train de se construire, de se structurer. Tu es au top niveau. Tu choisis de partir sur un autre sport. Moi, j'imagine tout de suite, coucou maman, si tu nous écoutes, tu vois, ma mère, à chaque fois que je crée une nouvelle boîte ou que j'ai une nouvelle idée de business et que je la lance, me dit encore une nouvelle folie de Barthes. Et puis, tu vois, une fois sur deux, c'est un gros carton. Je suis fatigué, ça a pas marché, j'ai perdu de l'argent et je suis un peu, enfin voilà, tu vois, ça a pas marché quoi. Et une autre fois sur deux, bah, je me suis éclaté, c'était cool, j'ai appris plein de choses et ça a marché. Mais il y a toujours cette petite voix qui me dit, t'as encore un nouveau truc. Et pareil, je fais un peu la passerelle entre les sponsors et les investisseurs, même si les relations sont un peu différentes. Qui vont te dire t'es sûr que tu veux partir sur un nouveau truc, moi je suis pas sûr de te suivre cette fois-ci, tu vois, et c'est pas toujours dur à gérer et ça met du temps, tu vois, avant de trouver les gens qui te font confiance, qui acceptent et tout. Toi, comment est-ce que tu vois, au niveau des sponsors aussi, on met beaucoup une étiquette sur le front d'un athlète de haut niveau. Comment est-ce que tu le vis tout ça, comment est-ce que tu peux faire le swift, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des moments un peu plus durs que d'autres? Comment est-ce que ton entourage le voit? Désolé, je te mets plein de questions un peu
non,
sur la
t'inquiète.
Table. Tu prends un peu celle que tu veux. Mais ouais, est-ce que c'est facile de changer de sport d'un point de vue externe? Là, on a parfaitement compris que toi, de ton point de vue, il y a la passion, t'y vas, t'as la sensation, t'y vas, tu te poses pas une seule question si tu vas performer, pas performer. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir et le reste va suivre. Mais comment le monde extérieur le voit autour de toi?
Le monde extérieur ne comprend pas grand chose à ce que je fais, je pense. Donc il voit rien, enfin il s'en fout, je sais pas. Mes parents, pour parler vraiment des personnes les plus proches et celles qui te soutiennent le plus. Moi j'ai des parents en or qui m'ont toujours dit nous ce qu'on veut c'est que tu sois heureuse et peu importe ce que tu fais. Quand j'ai commencé en SUP, en paddle, pardon. Donc SUP, c'est les initiales de stand-up paddle, pour ceux qui savent pas. Et moi, je dis plutôt SUP, du coup. Quand j'ai commencé en paddle, je bossais dans des boutiques l'été. J'étais prof de voile. Je m'en foutais complètement de pas réussir. Okay. C'est-à-dire que je m'entraînais. J'y allais, je faisais les compètes, je m'éclatais. J'avais pas beaucoup d'argent. Et voilà. Et j'aurais pu finir prof de voile, j'aurais été très contente. Parce que là où je me sens le mieux, c'est sur l'eau, point barre. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une chance d'avoir une passion comme ça. Je pense que c'est une chance de dingue. Et là, en ce moment, j'ai encore un peu plus de chance parce que j'ai des personnes incroyables qui me suivent. J'ai mes sponsors, c'est mes potes, c'est des gens qui sont là. Enfin, là, je suis dans un rêve parce que j'ai Itiwit, donc des cats. C'est tous mes potes et ils sont là pour tout ce qui est paddle. On a fait une super pagaie ensemble, qui va sortir prochainement. Si les Chinois le veulent bien, Hein. Les porcs, non, c'est la mauvaise blague. Mais bon, ouais. Voilà, là, pour le, là, ça, il y a vraiment
quand
des,
tu dis ça, c'est, ouais, c'est des
top.
Problèmes de distribution dans les usines, enfin, de
ouais,
production.
Bah, c'est vrai que le Covid, c'était compliqué. Ouais. Ouais. Okay. Il y a eu des mises au point sur la pagaie qui ont un petit peu plus tardé. Donc, ça fait un an que je dis aux gens, elle sort dans un mois.
Quand c'est trop cool que tu sois impliqué dans la production.
Ouais,
produits,
mais ça,
quoi.
C'est trop, trop bon. Ouais. Et surtout avec des gens comme ça qui sont ouverts, qui t'écoutent, qui testent, on ride ensemble. Ils adorent du coup le produit final qui est un produit à la fois perf et à la fois accessible à tous. Et ça j'adore, vraiment ça j'adore. Mais bon, ça c'était pas facile d'accéder à ça en tant que rider, c'est pas facile déjà, mais en tant que rider femme, c'est encore moins facile parce que c'est pas commun. C'est assez nouveau. Voilà, donc et pour parler de ce transfert, je pense que moi même sur l'engagement que tu as dans la vie, sur que ce soit pour une performance, pour des nouveaux challenges, pour un quelque chose qui va amener de la peur ou du doute, il faut absolument ne pas être en attente de résultats et faire chaque moment après chaque moment, tu vas vraiment vivre l'instant et t'adapter à tous les moments qui s'enchaînent et d'être là, tu vois. C'est-à-dire que si t'es pas là maintenant, tu seras pas là tout à l'heure. Si t'es en train d'avoir peur pour si t'y arrives pas ou si il y a une merde ou si ça, ça.
Ça va. Ouais, ouais, nickel.
Les pêcheurs, ils passent.
On est randonneurs et tout, on est bien entourés. Ouais. Tout le monde nous regarde effectivement parce que...
Le public autour de nous.
Le public en délire. Non. Le spot est trop bien, tu vois, on est isolé, on est trop cool.
Et du coup, là, tu vois, je vais te prendre l'exemple d'une boîte qui m'a fait halluciner, qui s'appelle Sportium. Ouais. C'est le Airbnb du sport. Ouais. Et Sylvain, il m'a appelé il y a 5 ans, je crois. Et j'ai limite rigolé, quoi. Tu vois, enfin, c'était chou, tu vois, le mec est trop chou. Il était là en mode, moi, je vais monter un Airbnb, ça sera un truc pour le sport. Les gens, ils vont pouvoir accueillir d'autres personnes chez eux, des pratiquants de sport, et juste partager les spots ou louer du matos, etc. et tout. Et quand tu vois ça au tout début, le mec a une ambition, enfin, une vision, du coup, aujourd'hui, qui a carrément marché parce que c'est un gros carton. Ouais. Mais quand tu le vis au tout début, c'est trop, attachant, tu vois, de voir la personne qui démarre et qui crée son truc de zéro et qui dit, est-ce que tu peux m'aider pour faire un peu de com et tout pour mon activité parce que j'ai envie que ça se fasse connaître et tout. Et lui, vraiment, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration parce que il fait ça avec le cœur et il kiffe et il adore, tu vois, et il bosse. En fait, peut-être que parfois, tu te rends même plus compte si tu bosses ou pas, tellement t'adores ce que tu fais. Et ça, c'est encore une fois le meilleur moyen de vivre, hein, simplement. Mais après, voilà, pour moi, ce que je fais sur l'eau, c'est ça, quoi. Là, je fais du paddle foil, je fais du wing, je fais dans les vagues aussi. Et si tu veux venir, tu viens, tu me soutiens. Mais sinon, c'est pas grave, ça va, je suis bien comme ça, je suis heureuse, quoi.
Tu trouveras une autre solution, quoi.
Il y a pas mal de portes de sortie, ouais. Il y a pas mal de portes de sortie aussi, rien que dans le coaching, tu vois, il y a une grosse demande. Parce qu'encore une fois, c'est des sports nouveaux et quand tu peux amener des petits conseils, etc., des petits déclics pour les gens qui vont progresser plus vite,
Il y a des écoles à créer, des.
Ouais, voilà,
créer, quoi.
Ouais.
Du coup. Trop
et
bien.
Ça, j'adore aussi, donc j'adore coacher aussi, donc c'est cool.
Ok, trop, trop, trop bien. Et puis, merci de mentionner les gens qui t'inspirent autour de toi. Et c'est vrai que tu vois, j'ai beaucoup aimé quand tu m'as dit, quand t'as un peu la peur du résultat, faut se remettre dans l'instant présent et dans le plaisir, quoi, parce que c'est. Il n'y a que ça qui compte, tu vois, c'est de bien faire les choses maintenant et c'est que comme ça que tu peux avoir un bon résultat, tu vois. Et tu vois, je trouve c'est vachement inspirant, tu vois. Certains pourraient prendre un peu ça comme de l'insouciance, de se dire mais tiens, elle pense pas au futur, elle change de sport, comment elle va vivre, comment elle va faire. Mais en fait non, c'est juste se concentrer sur soi, sur son plaisir à soi et c'est comme ça que tout le reste vient, tu vois. Et je trouve que c'est vachement inspirant. Et tu vois, et même si je fais un petit parallèle avec moi par exemple le podcast, tu vois, là Bah, tu vois, j'ai monté des boîtes par le passé, donc je suis confiant, je sais que ça marche et je sais que je peux être un entrepreneur qui tourne bien. Mais là, quand je recommence quelque chose un peu de... Bon, ça fait 3 ans que le podcast existe, mais je suis à 100% dessus, je suis un peu tout seul, tu vois, officiellement. Je bosse avec quelques freelances, mais voilà. Mais je me dis, putain, tu sais, j'ai quand même des doutes, tu vois, genre, ouais, est-ce que je vais réussir à trouver un modèle économique? Est-ce que ça va grossir? Est-ce que les gens ils veulent vraiment écouter des podcasts et tout à l'infini? Quand j'aurai fait 200 interviews, est-ce que les gens ils vont continuer d'écouter? Tu peux te remettre plein de questions. Et en fait, le seul truc qui marche, c'est passe un bon moment avec Olivia tout de suite, tu vois. Et tiens, viens, on va faire une interview au bord de la plage.
C'est comme si t'étais dans un resto en fait et que tu servais un plat à quelqu'un avec le smile. Ouais. Non. Bah là, tu fais un podcast, t'es content et du coup les gens ils le ressentent et
ouais, exactement.
Et c'est ça. Là, je fais le parallèle aussi avec un événement sur lequel j'étais ce week-end, l'Outdoor Mix Festival. Je vais y arriver. Donc, c'est un événement de sport outdoor et de musique qui est devenu assez conséquent. Ouais. Et surtout avec une énergie de dingue, quoi. C'est genre tout le monde est cool. L'organisateur, c'est une perle. Tu vois, c'est vraiment des très très bons moments vécus. Et à la fin de l'événement, tu vois, quand t'as beaucoup de médias qui viennent, tu vois, quand ça commence à prendre de l'ampleur et tout, tu vois, tu peux te dire, tu peux éventuellement te déconnecter de pourquoi t'es là. Mmh. Et l'organisateur, il te dit, de toute façon, on est là pour passer une bonne journée et s'éclater. Et moi, je suis trop content pour ça, quoi, parce qu'il voit tout le monde avec le smile autour de lui. Et au final, voilà, c'est ça, quoi. Et c'est vrai que dans le sport de haut niveau, tu peux éventuellement perdre ça quand il y a des intérêts financiers, il y a beaucoup de pression qui est souvent... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un athlète, c'est un athlète, c'est un passionné ou une passionnée, et c'est pur, tu vois. Mmh. Si c'est bien encadré, c'est pur. Ce qui vient un peu casser le game dans les sports politisés, disons, qui sont... plus médiatisés parce qu'ils sont olympiques ou parce qu'ils sont plus intéressants pour des raisons politiques ou là qui intéressent plus de monde. Quand t'as des entraîneurs qui sont autour, ça peut dénaturer le côté de partage parce qu'il y a cette pression où l'entraîneur, lui par contre, il a peur parce qu'il a son salaire et qu'il veut rester là, tu vois.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et que s'il n'y a pas de résultat, lui, ça va pas pour lui, tu vois.
Ouais.
Et même si c'est super adorable, tu vois, d'être là, d'entraîner, c'est un métier qui est super dur et t'es toujours en train de te déplacer, etc. Je pense qu'il faut jamais oublier le fait que le sport, c'est un jeu et il y a différentes façons d'accéder à la performance et pas forcément la façon de tirer la tronche et tu vois, être un peu agressif avec les autres ou tu vois, vouloir rabaisser les autres.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Tu sais, quand l'enjeu ou l'argent ou quand une raison externe, si tu veux, prend le pas sur la performance et devient plus importante que la performance, t'en perds tout l'aspect effectivement du plaisir et ça se ressent vraiment et c'est vrai que pour certains en fait il y a tellement de... Je sais pas si t'as regardé, ça me fait penser, tu vois ce qu'on est en train de dire, ça me fait penser au reportage qui est sur la plateforme de streaming américaine avec un logo un peu rouge et noir, tu vois, sur Neymar, tu vois, le joueur de foot. Je sais pas si tu l'as entendu parler ou tu l'as vu. Bah en fait, tu te rends compte que, tu vois, Neymar aujourd'hui, c'est un des sportifs qui est peut-être dans les 10% les mieux payés au monde, enfin dans les 10 athlètes les mieux payés au monde. En fait, il y a 200 personnes qui bossent pour lui. C'est son père qui contrôle tout. Et lui, il est plus du tout heureux, en fait. Et il s'est enfermé un peu dans cette image de l'enfant terrible. Dans cette marque, tu vois, l'enfant terrible, il faut qu'on le méprise un peu autant qu'on l'adore, tu vois. Et tu vois que ouais, en fait, s'il pouvait, il a envie de redevenir ce gamin
qui
jouait, tu vois, quand il avait 15 ans et que... Et c'était un peu la star, il était un peu insouciant, mais ça restait ça restait le Brésil et il y avait pas de caméra et c'était la star du village, tu vois, un peu. Et je dis 15 ans, mais c'était encore plus jeune, tu vois, et que là aujourd'hui il est l'égérie d'un empire qui contrôle pas vraiment, tu vois, qui est la marque Neymar, et que aujourd'hui ouais il le fait parce que parce qu'il fait vivre 200 personnes derrière et que certains, tu vois, le poussent pour qu'il aille à fond, quoi. Donc ouais. c'est un peu, enfin regarde-le parce que c'est un peu, moi en tout cas, il m'a vachement attristé, tu vois. J'aimais pas forcément son image qu'il essayait de dégager un peu enfant gâté, tu vois, du football. Et je l'ai un peu mieux compris, tu vois. Il joue un personnage. Il n'y a pas trop les rênes. Et du coup, c'est un autre, tu vois, par rapport à toi. Moi, je trouve que vous êtes les opposés, tu vois. Où là, toi, t'es hyper libre, tu fais ce que tu veux. On te suit, on ne suit pas, tant pis pour toi. et lui qui est complètement
tant
bloqué.
Mieux parfois.
qui est complètement bloqué, mais tu vois, c'est.
Ouais, bah, je pense qu'à un moment donné.
En tout cas, encore plus. Enfin, tu m'inspires beaucoup plus que lui, tu vois.
Je pense que. Quand ça devient aussi énorme, enfin quand ton image est autant médiatisée et que tu, bah, que en fait au final tu fais ça pour l'image, tu deviens esclave de ton image, tu sais peut-être même plus qui tu es.
Ouais.
Est-ce que tu et même aussi pourquoi tu le fais, tu vois. Et il y a peut-être une dépersonnalisation, tu vois, à un moment donné où tu dois répondre à des attentes des gens. Et dans ce cas-là, du coup, c'est super dur d'être soi-même parce que t'as pas le droit d'être faible, ouais. T'as pas le droit, voilà, d'être mal habillé ou d'avoir, je sais pas, voilà, de. C'est. Et ça, je pense que ça, c'est pas du tout un cadeau, quoi.
Ouais.
Ça, moi, jamais. Toi, quand il y a des gens qui me parlent de ça, qui me disent, toi, t'aimerais pas être plus connu, plus, voilà, grossir, etc. Moi, je sais que c'est un luxe de me balader dans la rue, chill, parler à des gens, ils me connaissent pas. Je suis contente, tu vois. Parfois, ils me demandent ce que je fais dans la vie, ben, je dis que je fais de mon mieux, quoi. Tu vois. Et voilà. Et next.
Voilà. Trop bien la réponse.
Et ouais, c'était un milliardaire sur une soirée à Paris. Je lui avais demandé, toi, tu fais quoi dans la vie? Il m'a dit, ben, je fais de mon mieux, hein. C'est canadien, le mec. J'avais halluciné, du coup, je l'ai gardé, celle-là. Mais. Ouais, je pense que c'est un équilibre entre parfois bah, t'es plus riche à te trouver toi et à être en accord avec toi-même que riche financièrement.
Ouais, bien sûr.
Au tout début, dans le bah, quand j'ai démarré à faire du sup, les gens bah, pas que ma famille, hein, les gens en général, ils me voyaient, ils me rencontraient, je leur disais ce que je faisais. C'était pas du tout. Enfin, c'est d'ailleurs toujours pas très connu le paddle de race. Même si tu peux en vivre aujourd'hui, il me disait mais qu'est-ce qu'il me posait comme question. Bon, bien sûr qu'il me demandait comment tu gagnes ta vie. Et je l'ai pas là. Je sais plus, mais enfin moi je leur répondais bah ça dépend quelle est ta vision de gagner quoi. Est-ce que tu gagnes de l'argent ou est-ce que tu gagnes des moments.
Ouais.
Tu vois. Et après, bah voilà, ça dépend d'où tu te positionnes. Bien sûr, faut toujours garder les pieds sur terre et avoir un minimum, tu vois, pour vivre. Moi, c'est vrai que je vis quand même pas mal dans l'instant. C'est pas trop mon délire de mettre de côté, tu vois, et de penser à plus tard. Et d'ailleurs, bah, les opportunités tombent naturellement avec ce que tu fais, ce que tu crées ouais. ça continue, quoi. Ça peut continuer même à des âges plus avancés. Nous, jusqu'à 45 ans, tu peux encore être athlète, faire du marketing, etc. pour les marques.
Ouais.
Parce que tu touches un public, parce que notre industrie sportive, les marques qui vendent le matos, les personnes qui achètent, elles ont entre 30 et 60 ans. Ouais. Du coup, elles s'identifient à toi.
Bien sûr.
Enfin, au final, ça casse un peu l'ambiance, tu vois, mais parce que c'est du côté, voilà, le côté pognon pur. Mais du coup voilà, ça fait que tu peux continuer tard et avoir ta place avec ouais. les marques.
Ouais, puis même je pense que tu peux aller encore plus loin hein, quand tu vois des gens comme Mike Horn, Liv Sansoz aussi, tu vois, qui fait de l'alpinisme et tout. Je sais pas quel âge elle a, Liv, mais tu vois, elle a une première carrière internationale d'escalade où elle a été troisième mondiale, tu vois. Après, elle fait du base jump, elle fait du wingsuit, et puis là maintenant, elle fait de l'alpinisme et elle fait, tu vois, les plus hauts sommets du monde et d'Europe, tu vois. Donc,
ça, c'est énorme.
Tu vois, et elle a eu 3 carrières sportives dans une vie, tu vois. Et aujourd'hui, Liv, si tu nous écoutes, je suis désolé, j'ai oublié ton âge, tu vois, et j'ai pas envie de faire une bêtise, c'est toujours un sujet sensible. Mais elle a 40 ans, elle a 40 ans passé, ouais, c'est sûr, tu vois. Donc,
après, il y a beaucoup de connaissances du terrain, de techniques, de confiance que tu gagnes avec le temps.
Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Avec tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu vis, toutes les personnes que tu rencontres. Et en foil, c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup d'observation du plan d'eau, de réglage.
Ouais, 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 clairement.
C'est plus vraiment un sport, en fait. C'est chill. Non, je rigole.
Nous, on prépare, ouais. On se met sur la plage, on regarde.
Ouais. La caricature du surfeur.
Mais non, mais c'est marrant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.